Chapitre 32 à 34 Retour en Canaan. Les arrangements humains et la prière. Et Jacob alla son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. Verset 1. En dépit de tout, la grâce de Dieu l'accompagne. Et Jacob envoya devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans la campagne d'Édom. Verset 3. Jacob, évidemment, est en souci en pensant à sa rencontre avec Ésaü, et il y avait bien de quoi. Il avait très mal agi envers son frère, et sa conscience n'était pas tranquille. Mais au lieu de se jeter dans les bras de Dieu sans réserve, il a de nouveau recours, pour détourner la colère d'Ésaü, à ses moyens habituels. Il essaie de résoudre le problème lui-même, au lieu de s'appuyer sur Dieu. Et il leur commanda, disant: Vous parlerez ainsi à mon seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et m'y suis arrêté jusqu'à présent. Verset 4. Tout ceci annonce une âme qui ne vit pas près de Dieu. Mon seigneur et ton serviteur n'est pas le langage d'un frère à son frère, ni de quelqu'un qui a le sentiment de la dignité que donne la présence de Dieu. Et les messagers revinrent vers Jacob disant: Nous sommes allés vers ton frère, vers Ésaü, et même il vient à ta rencontre, et 400 hommes avec lui. Et Jacob craignit beaucoup. Versets 6 et 7. Que va-t-il faire? S'abandonnera-t-il à Dieu? Non. Il commence par combiner des arrangements. Il partagea le peuple qui était avec lui, et le menu bétail, et le gros bétail, et les chameaux en deux bandes. Et il dit: Si Ésaü vient à l'une des bandes et la frappe, la bande qui restera pourra échapper. Versets 7 et 8. La première pensée de Jacob est toujours un plan, et en cela, il est l'image de ce que sont nos pauvres cœurs. Il est vrai qu'après avoir formé son plan, il se tourne vers l'Éternel et crie à lui pour qu'il le délivre, mais à peine a-t-il cessé de prier qu'il revient à ses arrangements. Or, prier et faire des plans sont deux choses qui ne vont pas ensemble. Quand je fais des combinaisons, je me repose plus ou moins sur elle. Quand je prie, je dois me reposer exclusivement sur Dieu. Quand mon regard est absorbé par mes propres opérations, je ne suis pas préparé à voir Dieu intervenir en ma faveur. Et alors, la prière n'est pas l'expression du besoin dans lequel je me trouve, mais une simple forme ou peut-être la demande à Dieu de bénir mes projets. Or, Dieu ne veut pas que je lui demande de bénir mes plans et mes moyens, mais que je remette tout entre ses mains, afin que lui intervienne en ma faveur. Jacob avait demandé à Dieu de le délivrer de son frère Ésaü. Mais il est évident qu'il n'avait pas vraiment confiance en son intervention, puisqu'il essaie d'apaiser Ésaü par un présent. Sa confiance repose plus dans son présent qu'en Dieu. Il est souvent difficile de découvrir quel est le vrai fondement de notre confiance. Le cœur est trompeur par-dessus tout. Et incurable. Jérémie 17, verset 9. Nous nous imaginons, ou nous voudrions nous persuader nous-mêmes, que nous nous appuyons sur Dieu, alors que de fait nous avons placé notre confiance en quelque arrangement de notre invention. Ce qui nous est rapporté ici de Jacob, comme aussi ce que nous découvrons dans notre propre cœur, nous apprend que nous sommes plus disposés à nous appuyer sur les combinaisons de notre propre sagesse que sur Dieu. Nous sommes souvent très contents de nous-mêmes lorsque nos arrangements ont été accompagnés de prières ou que nous avons employé tous les moyens permis et demandé à Dieu de les bénir. Mais en pareil cas, nos prières ne valent pas cher. Il faut que nous soyons amenés au terme de tout ce que produit le moi pour que Dieu puisse se manifester. Jacob à Péniel. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Verset 24. Ici commence une nouvelle phase de son histoire. Il faut que nous nous soyons trouvés seuls avec Dieu pour que nous arrivions à une juste connaissance de nous-mêmes et de nos voies. Notre nature et ses opérations doivent être pesées à la balance du sanctuaire. Peu importe ce que nous pensons de nous-mêmes ou ce que les hommes peuvent en penser, l'important est de savoir ce que Dieu en pense. Et pour l'apprendre, il faut que nous soyons laissés seuls seul avec Dieu. Jacob resta seul et un homme lutta avec lui. Dieu lutte avec Jacob, afin de lui faire sentir qu'il n'est qu'une faible et misérable créature. Puis, voyant que Jacob soutient la lutte contre lui avec tant d'opiniâtreté, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée. Verset 25. Il faut qu'un signe de mort soit inscrit sur la chair. Il faut que nous ayons saisi la portée de la croix de Christ avant de pouvoir marcher devant Dieu avec fermeté et bonheur. Ce n'est que lorsque Jacob est laissé seul qu'il acquiert une juste idée de l'être faible qu'il est par lui-même. Alors, le siège de sa force étant atteint, il apprend à dire « Je ne te laisserai point ». C'est l'expression de sa foi. Dès lors commence une ère nouvelle dans la vie de Jacob. Jusqu'ici, il a persévéré dans ses propres voies. Maintenant, il est amené à dire « Je ne te laisserai point ». Remarquez que Jacob ne parle ainsi que dès le moment où l'emboîture de sa hanche est démise. Ceci nous donne la clé de toute cette scène. C'est dans le but de l'amener là que Dieu a lutté avec lui. Il faut que la créature prenne sa place devant Dieu et accorde à Dieu la sienne. Jacob devient Israël. Ce n'est pas une chose facile d'en venir à reconnaître notre néant et de pouvoir dire « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni ». Verset 26. Dire ainsi du cœur et demeurer dans la puissance de ce que cette parole exprime, c'est le secret de la vraie force. Jacob ne parla ainsi que lorsque l'emboîture de sa hanche eut été atteinte et pas avant. Il lutta longtemps avant de céder, parce que sa confiance en la chair était forte. Mais Dieu peut abattre jusque dans la poussière le caractère le plus obstiné. Il peut atteindre le ressort de la force naturelle et écrire sur elle la sentence de mort. Jusqu'alors, on ne peut avoir de puissance auprès de Dieu et des hommes. Il faut être faible avant de pouvoir être fort. La puissance de Christ ne peut reposer sur moi qu'en proportion de la connaissance que j'ai de mes infirmités. 2 Corinthiens 12, verset 9. Christ ne peut mettre le sceau de son approbation sur l'énergie de la chair, sur sa sagesse ou sur ce qui fait sa gloire. Il faut que toutes ces choses diminuent afin que lui croisse. Jamais la chair ne servira de piédestal à la puissance de Christ. Si elle le pouvait, la chair aurait de quoi se glorifier devant Dieu, et nous savons que Dieu ne peut le permettre. La manifestation de la gloire ou du caractère de Dieu est liée à l'annulation de la chair. Il faut qu'elle soit réellement mise de côté. C'est pourquoi, bien que Jacob soit appelé à déclarer son nom, Jacob, ou celui qui supplante, il n'obtient aucune révélation du nom de celui qui a lutté avec lui et qui l'a abattu jusque dans la poussière. Il reçoit pour lui-même le nom d'Israël, prince de Dieu, et c'est là un grand progrès. Dieu amène Jacob à lui dire la vérité quant à lui-même, et en conséquence, il le bénit. L'instant de prière de Jacob, « Je ne te laisserai point aller sans que tu m'aies béni », est exaucé. Et il le bénit là. Versets 26 et 29. Jacob reçut le nouveau nom d'Israël lorsque l'emboîture de sa hanche eut été atteinte. Il devint un prince puissant quand il eut appris et reconnu qu'il n'était qu'un homme faible. Il y a toujours une bénédiction à être amené à se connaître soi-même en quelque mesure. Nous sommes ainsi conduits sur un chemin dans lequel nous sommes rendus capables de discerner plus clairement ce que Dieu est pour nous dans tous les détails. Ainsi en fut-il de Jacob. Dès que l'emboîture de sa hanche eut été touchée, il se trouva dans une condition à laquelle Dieu seul pouvait suffire. Un boiteux ne pouvait pas faire grand-chose. Il devait donc s'attacher à celui qui était tout-puissant. Pour terminer ce chapitre, nous remarquerons que le livre de Job est, dans un certain sens, un commentaire de cette scène de l'histoire de Jacob que nous venons de considérer. D'un bout à l'autre des 31 premiers chapitres, Job lutte avec ses amis et soutient sa thèse contre tous leurs arguments. Mais au chapitre 32, se servant d'Élihu, Dieu entre en lutte avec lui, Il le fait de façon directe au chapitre 38, en se manifestant dans sa grandeur et dans sa gloire, et fait sortir de sa bouche ces paroles bien connues. « Mon oreille avait entendu parler de toi. Maintenant, mon œil t'a vu. C'est pourquoi j'ai horreur de moi, et je me repens dans la poussière et dans la cendre. » Job 42, versets 5 et 6. Dieu avait touché l'emboîture de sa hanche. Et remarquez l'expression « mon œil t'a vu ». Job ne dit pas seulement « je me vois moi-même », mais « je t'ai vu, toi ». Il n'y a que la vue de ce que Dieu est qui puisse produire une véritable repentance et l'horreur de soi-même. Rencontre avec Ésaü. Nous allons voir combien toutes les craintes de Jacob étaient dénuées de fondement et tous ses plans inutiles. Malgré la lutte, et quoique Dieu ait touché l'emboîture de sa hanche et l'ait rendu boiteux, Jacob continue à former des plans. Et Jacob leva ses yeux et regarda, et voici Ésaü venait, et 400 hommes avec lui. Et il partagea les enfants entre Léa et Rachel, et les deux servantes, et il mit à la tête les servantes et leurs enfants, puis Léa et ses enfants, et puis Rachel et Joseph. Chapitre 33, versets 1 et 2. Les craintes de Jacob n'ont pas cessé. Il s'attend encore à ce qu'Ésaü se venge, et il expose au premier coup ceux auxquels il tient le moins. Que le cœur humain est lent à se confier en Dieu. Si Jacob s'était réellement reposé sur Dieu, il n'aurait pas craint d'être détruit, lui et sa famille. Mais hélas, nous savons combien nos cœurs ont de peine à se reposer simplement dans une paisible confiance sur un Dieu toujours présent, tout-puissant et infiniment miséricordieux. Toute cette inquiétude était vaine. Et Ésaü courut à sa rencontre, et l'embrassa, et se jeta à son cou, et le baisa, et ils pleurèrent. Verset 4. Le présent de Jacob n'était pas nécessaire, et son plan était inutile. En fait, c'est Dieu qui apaisa Ésaü, comme déjà il avait apaisé Laban. Au lieu de rencontrer l'épée d'Ésaü, Jacob rencontre les bras ouverts d'un frère. D'où vient que, malgré toutes les preuves que nous avons de la fidélité de Dieu envers ceux qui se confient en lui, nous soyons, à chaque nouvelle occasion, si prompts à douter et à hésiter? C'est que nous ne le connaissons pas assez. Plus nous connaîtrons Dieu intimement, plus aussi notre paix sera solide, et plus nous serons élevés au-dessus de toute dépendance de l'homme. Dieu est un rocher, et nous n'avons qu'à nous appuyer sur lui pour savoir combien il est disposé à nous soutenir et puissant pour le faire. Jacob s'établit à Sukkot. Après cette manifestation de la bonté de Dieu envers lui, nous voyons Jacob s'établir à Sukkot et, contrairement au principe du pèlerin, y bâtir une maison, comme s'il avait été chez lui. Sukkot n'était pas le lieu que Dieu lui avait destiné. L'Éternel ne lui avait pas dit « Je suis le Dieu de Sukkot », mais « Je suis le Dieu de Bethel ». Chapitre 31, verset 13. C'est donc Bethel, et non Sukkot, que Jacob aurait dû avoir en vue comme but principal. Nos cœurs sont toujours portés à se contenter d'une position et d'une part inférieure à celle que Dieu, dans sa bonté, voudrait nous donner. Ensuite, Jacob s'avance jusqu'à Sichem et y achète une pièce de terre, restant toujours en deçà du lieu que Dieu lui avait assigné. Et il y bâtit un autel, mais par le nom même qu'il lui donne, il indique l'état moral de son âme. Il l'appelle Dieu, le Dieu d'Israël. C'est sans doute un privilège de connaître Dieu comme notre Dieu, mais c'est plus encore de le connaître comme le Dieu de sa propre maison, en pouvant nous considérer nous-mêmes comme faisant partie de cette maison. Au chapitre 35, nous verrons Jacob amené à une meilleure connaissance de Dieu, mais à Sichem, il est évidemment dans une situation morale peu élevée, et il en résulte des souffrances pour lui, comme il arrive toujours quand nous ne savons pas saisir la position que Dieu nous a faite. Malheur à Sichem. Le chapitre 34 nous apprend quels furent les fruits amers de son séjour à Sichem. Quelle tâche en résulta pour sa famille? Siméon et Lévi tentent de l'effacer par la violence, mais commet ainsi un acte qui ajoute un trouble supplémentaire à la peine de Jacob. Celui-ci est même plus vivement affecté de leur violence que de l'insulte faite à sa fille. Et Jacob dit à Siméon et à Lévi, « Vous m'avez troublé, en me mettant en mauvaise odeur auprès des habitants du pays, les Cananéens et les Phéréziens, et moi je n'ai qu'un petit nombre d'hommes, et ils s'assembleront contre moi et me frapperont, et je serai détruit, moi et ma maison. » Verset 30. Ce sont les conséquences qui pourront résulter de cette affaire pour lui-même et pour sa maison qui affectent Jacob. Il semble avoir vécu dans une crainte constante de quelque danger pour lui-même et pour sa famille, montrant partout un esprit inquiet, craintif, calculateur, incompatible avec une vie de foi réelle en Dieu. Jacob était sans doute un croyant. Nous savons qu'il a sa place, au milieu de la grande nuée de témoins de Hébreux 11. Mais il ne marcha pas dans l'exercice habituel d'une foi pratique, et, en conséquence, il fit de tristes chutes. Est-ce la foi qui le conduisait à dire « Je serai détruit, moi et ma maison », alors que Dieu lui avait fait la promesse « Je te garderai, je ne t'abandonnerai pas » Chapitre 28, verset 15. La promesse de Dieu aurait dû tranquilliser son cœur. Au lieu de regarder à Siméon et à Lévi, et aux conséquences de leur action précipitée, il aurait dû se juger lui-même. Pourquoi s'était-il établi à Sichem? S'il ne l'avait pas fait, Dina n'aurait pas été déshonorée, et la violence de ses fils ne se serait pas déployée. Que de chrétiens ne voit-on pas se plonger dans les difficultés et le chagrin par leur propre infidélité, puis accuser les circonstances au lieu de se juger eux-mêmes? Un grand nombre de parents chrétiens sont dans l'angoisse et gémissent en voyant la turbulence, l'insubordination et la mondanité de leurs enfants, mais ont-ils eux-mêmes marché fidèlement devant Dieu à l'égard de leur famille? Jacob n'aurait pas dû s'établir à Sichem, et comme il manquait de la sensibilité qui lui aurait fait découvrir sa fausse position, Dieu s'est servi des circonstances pour le châtier. Ce qu'un homme sème, cela aussi il le moissonnera. Galates 6, verset 7. C'est là un principe du gouvernement moral de Dieu et à l'application duquel personne ne saurait échapper. En fait, c'est une bénédiction que nous devions recueillir les fruits de nos erreurs. Dieu nous amène ainsi à sentir, d'une manière ou d'une autre, combien c'est une chose amère de s'éloigner ou de se tenir à distance de lui. Son désir est que nous demeurions en lui et avec lui.